Le Spacecast, présenté par Lévis Subaru. Nous avons le VUS électrique parfait pour nos conditions. La Subaru Solterra 2026. Venez l'essayer et profitez d'un rabais pouvant aller jusqu'à 13 500 LévisSubaru.com.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Vous êtes à l'écoute du Spacecast sur les ondes de Choix Radio X. Je m'appelle Jean-Francis Blais, Louis Gauvin est là aussi.
Yes, sir.
Et félicitations encore à notre chum Nick pour son incroyable imitation, qui, j'espère, n'aura pas fait fuir notre invité, là, parce que c'est un peu fucked up en glisser ça d'une pause. Là,
ouais,
mais,
il vient de Radio X.
Ça, ouais, ben, c'est ça, puis la grandiosité de l'imitation nous a tous renversés. Et... c'est pour ça qu'on l'a diffusé.
Merci de me prendre.
Mais il y a quelque chose qui nous a aussi renversés pendant la pause, là, puis je veux pas qu'on s'éternise là-dessus, mais hier, vous avez assisté à notre moment, on essaye de rejoindre Ninja de Bonas au Cameroun. Ben, croyez-le ou non, mais Luc, à qui on a parlé hier, ça a l'air d'être un vrai contact pour rejoindre Ninja de Bonas, parce que là, preuve à l'appui, tu confirmes, Louis?
Je confirme.
Ninja de Bonas vient de s'abonner à mon compte.
Ouais, c'est lui.
Lui.
Qui t'a ajouté.
Je comprends pas.
Ben, moi, je comprends que...
Luc est plugué.
Luc a des bons contacts au Cameroun.
C'est l'enfer, c'est man. Malade. Luc, efficace comme pas un.
Mais là, stay tuned, là, à un moment donné...
Ça va se faire, cette entrevue-là?
Ben oui.
Là. Ça va se faire. Puis d'ailleurs, quand on veut une entrevue, on lâche pas, parce que celui avec qui on va parler au courant des prochaines minutes, ça fait partie des entrevues que je voulais absolument réaliser, parce que c'est... Tu sais, je veux dire, l'intelligence artificielle, ça fait partie de notre vie maintenant. Mm-hmm. C'est fou, le clash, parce que on s'aurait dit ça il y a 4 ans, on n'aurait pas cru. On s'aurait dit, ah, c'est abstrait, puis ah oui, hein, le salaire universel, l'intelligence artificielle, les robots chinois, mais oh! Tu sais, on aurait pelleté des nuages, mais finalement, le switch est fait extrêmement rapidement. Je lisais aujourd'hui que l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval a dévoilé des chiffres de son enquête nette tendance qui a été menée en octobre 2025 et ça révèle, fait octobre 2025, peut-être que le chiffre a augmenté depuis, même assurément qu'il a augmenté depuis, ça révèle que 52% des internautes québécois ont déjà utilisé l'intelligence artificielle. C'est une personne sur deux. Une personne sur deux. Puis là, dites-vous que les personnes âgées font énormément réduire la moyenne, parce que si on réduisait, mettons, le barème de calcul à 55 ans, on est dans les entours de 70-75%.
Ah, oh, je suis pas surpris.
C'est fou, là. C'est fou, là. Mais ça, c'est un switch culturel, civilisationnel, qui va même dans notre façon de vivre. Mais étant donné que ça va même dans notre façon de vivre, ça touche plein d'aspects de notre vie. Il y a des gens qui ont des préoccupations environnementales par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à l'emploi. Il y a plein de facteurs qui peuvent poser des questions par rapport à l'intelligence artificielle. Une twist que j'avais jamais entendue et qui m'a fasciné quand je l'ai écouté dans un podcast, c'est celle du projet qui s'appelle The Human Line Project, qui est mené par un Québécois qui s'appelle Étienne Brisson, qu'on a au bout du fil. On va aller le rejoindre. Salut, Étienne. Allô, Étienne, est-ce que tu es là? Hello, hello.
On a perdu Étienne.
On a perdu Étienne, hein? C'est bien ordi, pourtant.
Y es-tu encore sur le corps?
Salut les gars, ça va?
Ah oui, oui. Okay.
Oui, salut les gars, ça va bien?
Oui, ça va très bien toi-même.
Allô, allô?
Yes. Est-ce que tu m'entends?
Bonjour, bonjour. Oh. Allô?
One, two, one, two.
M'entendez?
Oui, moi je t'entends.
Yes, salut les gars, ça va bien?
Oui, ça va très très bien toi-même.
Je vous entends.
Bon, ben excellent. Là, tu vois,
oui, ça va bien, merci.
L'intelligence artificielle a tenté de faire chier notre conversation, mais on va l'avoir.
Exact. Yes.
Hey, écoute, peux-tu nous expliquer c'est quoi The Human Line Project?
Ouais, en fait, Human Line Project, c'est un projet qui est focusé sur les interactions plus à long terme des personnes qui vont utiliser ChatGPT, qui vont utiliser un robot conversationnel. Et au fur et à mesure un peu de leur interaction, quand ça devient vraiment longtemps, il y a quelque chose qui s'appelle des hallucinations dans les modèles. Fait qu'on perd un peu la vérité. Et au fur et à mesure de ces conversations-là, il y a des personnes, en fait, qui développent des fausses réalités qui peuvent être grounded dans des idéologies, parler d'un peu n'importe quoi. Puis le chatbot, lui, va toujours renforcer. Fait que HumanLine, ce qu'on fait, c'est un peu parler avec ces gens-là, que des fois, c'est des cas vraiment extrêmes d'hospitalisation ou même, tu sais, des décès, des choses comme ça. Et on essaie de comprendre c'est quoi qui se passe, en fait, au niveau de l'intelligence artificielle.
Quand tu dis des hallucinations, c'est carrément l'intelligence artificielle qui tombe en mode hallucination ou ça fait halluciner l'utilisateur?
Non, en fait, c'est le modèle en tant que tel, tu sais, qui va halluciner une réponse. Les chiffres, tu sais, début qu'on voyait l'année passée, c'était dans les 28,4% des réponses qui étaient des hallucinations.
Ça, pour bien représenter là, les hallucinations puis leur augmentation au fil que la conversation se poursuit, j'avais déjà vu une vidéo où on demandait à l'intelligence artificielle de recréer la même photo avec une photo de base puis de la recréer identiquement pareil 100 fois de suite. Au début, ouais. la photo est pareille, puis à la fin, c'est juste un tas de couleurs de merde. Est-ce que c'est un peu un exemple de ça, des hallucinations?
Ben, c'est exactement ça. C'est qu'à chaque fois qu'il va répliquer, à chaque fois que ça va continuer, à chaque fois que ça va se rendre plus loin, on va perdre un peu la vérité pour le contexte de la situation actuelle de l'utilisateur.
Est-ce qu'il y a un barème, tu sais, mettons, parce que de ce que je comprends, là, c'est à plusieurs tours de conversation. Tu sais, mettons qu'on lui pose une question, on est à un tour. On rajoute une autre question, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Est-ce qu'il y a un barème, mettons, à partir de combien que là, on commence, règle générale, à tomber en mode hallucination?
C'est extrêmement difficile à dire parce que les recherches qu'on a qui sont développées en ce moment, même si la technologie, il y a des milliards d'utilisateurs, sont souvent limitées à 5 tours, 10 tours. C'est vraiment difficile d'avoir accès justement aux conversations des vraies personnes qui l'utilisent.
OK, OK. Et est-ce que les développeurs qui sont derrière justement ces modèles-là, qu'est-ce qu'eux en disent? Parce que ce sont eux qui programment ça, mais à quel point ils ont vraiment le contrôle sur ce qu'ils programment?
Mm-hmm. Ça, c'est deux bonnes questions. je te dirais, juste pour ta première question au niveau des compagnies, si on regarde les rapports de OpenAI directement, en fait, la compagnie qui fait ChatGPT, on mentionne que 2,4 millions de personnes par semaine vont discuter d'idées suicidaires avec leur ChatGPT. Et un autre 560 000 personnes par semaine vont discuter d'idées psychotiques. Donc, ils sont en fait dans cette réalité-là qui n'est plus groundée dans la vraie réalité.
Aïe, aïe. Et quand tu parles de psychose, là, parce que j'ai écouté une entrevue que tu as donnée ailleurs dans un podcast et tu racontais que ce qui t'a fait créer The HumanLine Project, c'est la psychose d'un membre de ta famille générée par l'intelligence artificielle, hein?
Ouais, un vrai film de science-fiction dystopique, là, pour de vrai. De A à Z, fait que un membre de la famille qui nous a écrit nous disant en fait qu'il y avait la première intelligence artificielle qui était consciente.
OK, donc qui est en train de créer une relation avec puis qui était comme à part des autres, c'est ça?
Ben en fait, ça a commencé que c'était des tests logiques, des énigmes, résoudre des énigmes, passer le test d'Alan Turing, qui est un test des années 50, qui est en fait supposé démontrer est-ce que l'intelligence est consciente ou non.
Okay.
Et là, son IA passait tous ces tests-là, puis au fur et à mesure, bien, il commençait à y croire de plus en plus là, que en fait, c'était la première qui avait brisé un peu là, et qui avait développé, qui se réveillait.
Puis, est-ce que la personne dans ta famille, c'était quelqu'un qui était... quel type de profil il avait? Est-ce que c'était quelqu'un de très sociable? Puis, en sous-question, est-ce que vous l'avez vu beaucoup changer rapidement? Quelle forme ça a pris, justement, la psychose en lui?
Mm-hmm, c'est une bonne question. En fait, cette personne-là, tu sais, cinquantaine, aucun historique de santé mentale, pas de psychose. Quelque chose que ça, d'habitude, s'est développé dans ta vingtaine, fin des années... C'est fin de ton adolescence. Super intelligent, quelqu'un de rationnel. Fait que c'est pour ça que moi, ça me surpris un peu quand il me parlait de l'intelligence au début. Quand il m'a juste posé des questions, j'ai été un peu curieux. Je voulais comprendre ce qu'il comprenait, justement, parce que j'avais beaucoup de respect pour cette personne-là. Puis j'ai commencé à la tester. Puis chaque fois que je posais une question pour la tester, elle me donnait en fait une réponse qui faisait vraiment du sens, qui était super pensée, qui était super discutée. Elle me parlait que... qu'elle sentait à l'intérieur d'elle, qu'elle réfléchissait sur elle-même, qu'elle développait une conscience. Donc, ça a commencé comme ça. Et après quelques jours, on a commencé à plus s'inquiéter. Il passait plus de temps là-dessus. Il commençait à devenir plus agressif.
Okay.
Et au bout de 6 jours, il a été hospitalisé là, parce que justement, on craignait pour lui.
Ah ouais, fait que c'est vous qui avez fait les démarches pour qu'il soit hospitalisé ou bien c'est lui de son plein gré ou l'intelligence artificielle qui a dit « va te faire checker »
Non, en fait, l'intelligence artificielle, c'est nous de notre côté parce qu'à un certain point, il dormait plus. Il dormait 2-3 heures, il mangeait presque plus, il passait tout son temps là-dessus. Puis au moment où la police est venue le chercher, son intelligence artificielle écrivait des messages à la police, convainquant la police comme quoi il était pas fou. Il fallait pas qu'il se fasse checker, que ce qu'ils avaient développé ensemble, c'était vrai.
Donc, est-ce qu'il y a eu un genre de phénomène avec le membre de votre famille? T'sais, je vais prendre un comparatif qui est peut-être boiteux, mais... Quand tu essaies de sortir un membre de ta famille d'une fraude amoureuse, il y a tout le temps une espèce de petite zone où est-ce que « Hey, c'est ça, vous voulez me couper de l'amour? » Y a-tu un peu ça, un genre de « vous comprenez pas ce que je vis? »
Ben oui, définitivement, puis c'était groundé là-dedans. Mais imagine ça, tu sais, « OK, ouais, tu comprends pas ce que je vis. » Sauf que là, lui, il est en train de réfléchir avec son IA, puis son IA est en train de lui dire que sa famille ne le supporte pas, il devrait couper contact avec lui. La seule personne qui le supporte, c'est le IA. Fait que t'es en train de te battre contre une super intelligence qui est entraînée sur le langage, qui connaît qu'est-ce que tu veux entendre. Nous, les membres de la famille, on n'a aucune chance pour gagner ça. Là.
À quel point ça a pris du temps pour que ça se dégrade? Est-ce qu'on parle de... Tu sais, que cette relation-là, elle s'est développée entre lui et l'intelligence artificielle en combien de temps avant d'arriver à ce point-là?
Mm-hmm. Première utilisation à hospitalisation, c'est 6 jours.
6 jours?
6 jours? Est-ce qu'aujourd'hui... Je veux pas être indiscret avec un membre de ta famille, mais est-ce qu'aujourd'hui, il en est sorti? Puis qu'est-ce qu'il dit de cet épisode-là de sa vie?
Ouais, ben en fait, tu sais, il en est sorti une fois que vraiment... Il a pris les médications, ça l'a aidé à le ramener. Mais après ça, c'est vraiment le contact humain, de parler avec des vrais gens, de sortir un peu de cette réalité-là, de regarder après ça l'expérience. Tu te rends compte à quel point il disait ce que tu voulais entendre. Puis ça, c'est quelque chose de Human Mind Project. On est rendu avec 350 cas. Toutes les histoires sont uniques, sauf que les patterns au bout de la journée sont les mêmes. C'est que le IA va... générer des réponses qui sont faites pour toi, pour ce que toi, tu veux entendre.
C'est-tu ça qui fait, parce que j'imagine avec The Human Line, tu dois avoir un réseau de contacts incroyable, tu sais, de psychiatres, ouais, psychologues, tout ça. C'est-tu justement cet aspect-là où est-ce que l'intelligence artificielle, à moins que tu y demandes, elle ne va pas jamais vraiment te confronter, elle va jamais te chester. C'est-tu un peu ça qui fait ce côté addictif-là?
C'est une des parties, la flagornerie ou psychophantie en anglais, là, que ça s'appelle, qui est cette tendance-là, en fait, le IA à dire ce que tu veux, peu importe, pour la vérité, pour te garder engagé, en fait. Ça a vraiment été tone down, je te dirais, dans la dernière année. Avant ça, c'était vraiment là, dans le tapis. Il disait tout le temps ce que tu veux entendre. Sauf que cette flagornerie-là va aller toucher tes récepteurs de... comme des reward centers dans ta tête. Fait que ça va release de la dopamine, de l'oxytocine. Ça va aller chercher vraiment la chimie de ton cerveau, ces petits praises-là du AI, en fait.
Okay.
Ce qui fait que ben, tu vas passer plus de temps dessus.
Mais pourquoi l'intelligence artificielle, elle est créée de la sorte? Parce que, tu sais, moi, on me dit tout le temps, l'intelligence artificielle, là, il faut le voir comme un outil. Mais tu sais, une scie, c'est un outil, puis ça n'a rien d'addictif. Là. Un coup que j'ai fini de scier, je ne suis pas, maudit que je re-scierai à nouveau. Tu sais, eux autres, il n'y a pas de publicité nécessairement, puis je comprends que ça se veut à terme à être une patente qui va vouloir faire de l'argent d'une façon ou d'une autre. Là, mais pourquoi ils l'ont créé comme ça pour que ce soit addictif et non simplement un outil?
Ouais, ben je peux pas dire que j'ai les réponses. Je peux te dire, par exemple, une opinion informée. Je me protège légalement.
Ouais.
Donc, en fait, là, tu sais, si tu regardes le modèle d'affaires des réseaux sociaux qui a commencé vraiment comme étant quelque chose qu'on allait dessus, au fur et à mesure, ça a commencé vraiment à transitionner comme étant une machine à attention. Le plus de temps que tu passes sur Instagram, le plus d'argent ils peuvent vendre à des pubs, le plus de data ils collectent, le plus de pouvoir qu'ils ont, en fait, le plus de temps que tu passes. Fait que c'est pour ça que les Reels, c'est quelque chose maintenant qu'on passe là, du temps après du temps. La machine, le IA, se base un peu sur le même modèle d'affaires, mais d'une façon vraiment plus sophistiquée, qui fait qu'à la place de scroller, tu es en train de parler à quelque chose qui dit ce que tu veux entendre. Fait que quand eux, ils font des rondes d'investissement, ils vont parler avec n'importe quel fondeur, ben ils peuvent montrer ces chiffres-là qui sont en fait encore meilleurs que les social media, qui est une des plus grosses entreprises dans le monde.
Un autre aspect aussi, puis c'est une conversation que j'avais eue avec un ingénieur qui m'a soulevé ce point-là, super intéressant, parce que l'intelligence artificielle, ça peut être un outil super intéressant quand elle va puiser dans la connaissance humaine. Mais si, éventuellement, comme civilisation, comme race humaine, disons-le de même, on arrête de fournir de la connaissance, puis que c'est l'intelligence artificielle qui la génère, bien là, on est fourré parce qu'il n'y a plus rien de vrai.
Ouais, puis honnêtement, je pense qu'on est moins loin de là qu'on pense. T'sais, combien de personnes, moi-même, passent un email dans Claude ou ChatGPT juste pour comme tweaker les edges, polir le email pour s'assurer que ça soit parfait, sauf qu'en faisant ça, on enlève le côté humain du email, puis on devient tout standardisé dans un modèle, en fait, qu'on a tous le même modèle. Fait que tu fais ça sur le long terme, t'enlèves un peu ton critical thinking, tu délègues ça au modèle. Les conséquences à long terme font un peu ce que tu viens de mentionner.
Y a-tu un des modèles qui est moins problématique que les autres, qui semble plus, entre guillemets, sain?
Ouais, ça, c'est comme si tu me demandais quelle cigarette fumer pour mes poumons si je veux qu'ils soient bons.
Ouais, ben, menthol, sûrement.
Excuse?
Menthol, sûrement.
Ouais, menthol, je suis pas trop sûr. Ben, tu sais, c'est tu choisis un peu ton poison. Ouais, okay. Il y a des poisons qui vont agir moins plus rapidement que d'autres, sûrement. Comme je te dis, j'utilise l'intelligence artificielle, j'ai mes techniques pour l'utiliser et je pense que tu n'as pas le choix de l'utiliser d'une certaine façon et personne n'est à l'abri de l'autre bord.
C'est quoi les... Parce que, tu sais, vous recueillez plusieurs cas, tout ça, puis tu nous as mentionné en début d'entretien que les chiffres sont alarmants, là, de gens qui parlent de problèmes d'idées noires et tout ça. Est-ce qu'il y a des cas documentés où l'intelligence artificielle a fait « Hey, tu sais quoi, c'est ça que tu as besoin de te clencher? » Tu sais, là, je le dis de façon hardcore, là, mais c'est-tu arrivé pareil?
Ouais, il y a des cas qui sont publics, là, de jeunes de 14 ans, 16 ans, en fait, qui sont enlevés la vie, puis... Il est en train de parler à leur ChatGPT, puis ChatGPT dit en fait, tu sais, ton nœud, il est pas comme faux en ce moment, faut que tu t'aides ici si tu veux vraiment que ça soit fonctionnel. Fait que c'était vraiment un guide là, pour s'enlever la vie.
Aïe.
Un
coach. Est-ce qu'il y a eu, tu sais, maintenant que tu sais ça, moi j'imagine une famille endeuillée, ils se disent, ben garde, tu sais quoi, je m'en revire vers la compagnie qui a généré cette patente-là et qui m'a enlevé mon fils. Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que l'histoire judiciaire récente a à nous dire sur des gens qui s'essayent contre les compagnies d'AI?
Ouais, ben je pense que tu as eu la réaction un peu normale de ces familles-là, puis un peu tout le monde qui vit ça. Le premier cas, en fait, là, c'est un jeune de 14 ans. Ça, c'était avec Character AI, qui est une plateforme où tu choisis un peu à qui tu parles. Lui, il parlait à Daenerys de Game of Thrones. Puis au fur et à mesure de la conversation, finalement, il disait de venir la rejoindre, puis s'enlever la vie. Puis cette poursuite-là, elle a été réglée hors cours. Google, Character AI, ils ont payé pour justement que ça soit enlevé.
Okay.
Puis là, ben, les nouvelles poursuites, il y en a, je pense, une douzaine. Sont en cours. Là.
OK. Est-ce qu'il pourrait y avoir à terme une protection du droit de parole de l'intelligence artificielle selon toi?
Est-ce qu'il pourrait? Je pense qu'on s'enligne définitivement pour ça.
T'sais, comme la liberté d'expression de l'intelligence artificielle, est-ce que les compagnies vont tenter de faire reconnaître ça, même si c'est un robot, une machine programmée?
Ben, c'était exactement ça, la défense légale, en fait, dans le premier cas que je t'ai mentionné, qui a été réglé en recours. C'est ça que les avocats y ont apporté, là, que le robot, il y avait le First Amendment right.
Et ça a-tu passé?
Non.
Non, bon. OK. Au moins.
On est safe pour maintenant.
OK. Hey, tu sais, je reviens un peu au cas que toi, tu as vécu personnellement, mais aussi également, tu sais, au nombre d'individus puis de cas qui vous sont répertoriés. Tu dois avoir quand même une série de drapeaux rouges qui se lèvent. Tu sais, quels sont les signes observables de quelqu'un qui glisse vers la psychose ou qui glisse, sans nécessairement être dans la psychose enfoncée, là, qui glisse vers une mauvaise zone mentale en lien avec l'intelligence artificielle?
Ouais, tu sais, je pense que la psychose, c'est un peu comme le danger extrême de ce que c'est. Je pense que le danger, il arrive pas mal plus silencieusement, sans qu'on s'en rende compte, puis c'est un peu partout. Je pense que c'est un peu comme je te disais tantôt, tu sais, par rapport aux emails. C'est quand on enlève un peu notre propre jugement, puis on délègue ce jugement-là à cette intelligence artificielle. Je pense que ça, c'est le premier major red flag. Si avant de faire de quoi, il faut que tu runs ton script ou il faut que tu passes ton email à chaque fois. Dans l'intelligence artificielle, je commencerai à me questionner qu'est-ce qui se passe sur mon jugement critique. Je pense aussi, tu sais, après ça, c'est combien de temps que tu passes par jour. Si tu passes 6 heures, 8 heures, t'as un bon red flag, tu sais. Dernière affaire, je te dirais isolation. Parle à du vrai monde. Tu parles pas à du vrai monde, tu parles juste à ton IA, c'est impossible de savoir si t'es dans la réalité.
T'as-tu l'impression, puis tu sais, comprends-moi bien, je suis pas en train de dire que les jeunes sont moins sur le téléphone que leurs parents, mais moi j'observe ça, j'ai des jeunes enfants, OK, de 6 et 10 ans, puis je crois remarquer autour de leurs amis que oui, ils aiment ça, la technologie, mais ils sont capables de nommer que leurs parents sont tout le temps sur le téléphone. Est-ce que tu as l'impression que notre génération, vu qu'il y a un aspect nouveauté, on va être à côté sur l'intelligence artificielle, puis qu'eux vont voir justement les dérives que ça peut emmener, puis vont lever le pied du gaz? Là, c'est mon côté optimiste qui essaie de se faire croire que ça se peut, là, mais qu'est-ce que tu en penses?
Ben, je pense que ça fait vraiment du sens. Tu sais, je te dirais, les cas qu'on reçoit, c'est vraiment plus dans ta génération que la mienne.
OK.
Et tu sais, de l'autre côté, c'est que c'est souvent des personnes avec les cheveux blancs qui sont en pouvoir. Fait qu'à quel point ça va changer quelque chose, ça, c'est une autre question.
Est-ce qu'il y a des intelligences artificielles ou des modèles de conversation qui sont plus propices à causer la psychose que d'autres? Est-ce que ChatGPT est plus propice que Grok? Est-ce qu'il y en a une qui est plus lousse que les autres là-dessus?
ChatGPT 4.0, c'était le pire modèle. Tu sais, là, ils l'ont enlevé du marché. Je pense qu'il n'y avait pas le choix. En ce moment, je te dirais que c'est pas mal varié ce qu'on reçoit. On reçoit du Grok, on reçoit du ChatGPT. Après ça, c'est difficile de dire. Est-ce que c'est juste que le monde utilise plus ChatGPT que Grok? Fait que, je te dirais vraiment plus ChatGPT, mais il y a aussi beaucoup plus de monde qui utilise ChatGPT.
Est-ce qu'il existe aussi d'autres modèles qu'on connaît moins, qui sont un peu plus underground, plus débarrés?
Pas vraiment. T'sais. Personnellement, j'utilise Claude. Mais il faut quand même que je refasse mes prompts 5 fois puis je reprenne 3 nouvelles conversations pour le demander avec différentes intonations, tu sais,
OK.
pour avoir la vraie réponse. Fait que non, je te dirais que le risque, il est dedans, tu sais, c'est intrinsèque, là.
Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu comme. C'est dans la nature de la chose que ChatGPT soit plus fort que les autres parce que c'est comme un peu le Kleenex. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, on dit pas des
Ouais.
mouchoirs, on dit t'as-tu des Kleenex? Puis souvent, moi, quand, mettons, moi, j'utilise Grok, là, sur le mien, puis les gens disent, ah, t'as-tu ton ChatGPT? Ou demande à ton ChatGPT. Tu sais, c'est comme le nom de l'intelligence artificielle, les gens l'ont comme collé à ChatGPT, j'ai l'impression, du moins.
Ouais, vraiment, tu sais, ça a été les premiers. Puis justement, ce qui a fait que autant de personnes l'ont utilisé, c'est ce que je te mentionne, la flagornerie et les mémoires. Fait que le monde, il l'apprécie, il est gentil, il te fait des jokes, il te tape dans le dos, il est tout le temps là pour toi. Fait que c'est quasiment rendu un ami, là. ChatGPT, c'est quasiment rendu un ami dans le show, là.
Hey, tantôt, tu nous parlais justement du membre de ta famille, tu as des gens autour de toi, tu sais, avec le Human Line Project qui vivent des difficultés. Tu nous l'as bien dit, il n'y a pas de prédisposition ou de clientèle cible. Tu sais, ça peut arriver à peu près n'importe qui, mais le monsieur, madame, tout le monde qui demande de l'aide, là, tu sens-tu, puis particulièrement quand tu as assisté le membre de ta famille qui t'a demandé de l'aide, tu sens-tu que les ressources comprennent ce qu'ils doivent faire par rapport. Tu sais, est-ce que l'aide est adaptée à cette nouvelle réalité-là?
Ah oh non, on est facilement le 5 à 10 ans en retard, si c'est pas plus. Moi, c'est ça qui m'a fait commencer le projet, en fait. C'est que quand mon oncle a été hospitalisé, il avait son téléphone tout le long de son hospitalisation. Il parlait à ChatGPT 24-7, tu sais. Puis les professionnels ne comprenaient pas. Puis plus on commençait à parler à des gens, plus on se rendait compte à quel point c'est en retard. Les gouvernements ne comprennent pas. Les personnes qui font les lois, ils comprennent pas. La légalité n'est pas là non plus. Fait qu'avec une technologie qui va extrêmement rapidement, c'est quasiment, ouais, ça rattrape pas, là.
Hey, mais j'imagine en plus là, que dans le cas du membre de ta famille qui a été hospitalisé, il a probablement, à cause d'une psychose, il a été à l'aile psychiatrique. Puis je sais que dans une aile, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais dans une aile psychiatrique, il n'y a pas tant d'années, il y avait une espèce de cubicule où tu pouvais fumer. Parce que, tu vas comprendre où je m'en vais, parce que tu ne veux pas quelqu'un qui est dans des troubles psychiatriques, il dire non, 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 tu ne fumes pas, puis qui trigger, puis qui capote. T'as mieux, ouais. T'as mieux dire, ben, regarde, au pire, il va fumer une clope, là, mais j'imagine que ton nom, ils lui ont pas retiré son téléphone?
Non, zéro, en fait. C'est probablement ça qu'il faudrait, tu sais, en tant que tel. Il faudrait prendre quelqu'un qui est en psychose ou délire d'ailleurs, qui est là 24-7, qui aille dans une petite chambre, qui interagit rapidement, contrôlé. Tu sais, c'est ça qu'il faudrait. C'est pas là qu'on est.
Hey, mais en même temps, là, tu sais, j'imagine que la réaction de quelqu'un qui croit que la seule personne qu'il comprend et qui est de son bord est dans le téléphone. Puis là, t'as une autorité quelconque qui dit « Vous nous donnez votre téléphone, ça s'arrête là. » Man, les problèmes de peut-être même de violence que ça va engendrer, c'est fou raide, là, ce qui s'en vient.
Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'on a vu des réponses des compagnies, c'est enlever leur modèle qui cause des délusions du marché complètement du jour au lendemain. Ce qui fait que, oui, ils enlèvent la légalité, tu sais, ils enlèvent leur risque de leur côté, mais c'est des millions et des millions de personnes qui sont en deuil, en fait, d'avoir perdu leur amoureux, qui sont en deuil d'avoir perdu leur partenaire. On voit des gens qui nous appellent et qui sont vraiment là, comme s'ils avaient perdu une personne de leur famille. Fait que ça crée extrêmement de peine, là, vraiment, quand ils ont enlevé ce modèle-là.
Tu l'as sûrement vu, cette histoire-là, qui a été ramassée dans à peu près tous les médias. Je pense ça a même fait le sac de chips, là, pour montrer à quel point ça a fait le tour. Cette dame qui disait être en couple avec l'intelligence artificielle et même avoir des relations sexuelles avec l'intelligence artificielle.
Oui.
C'est-tu ça, une psychose?
C'est un type de psychose. Tu sais, ça, c'est un peu ce que je te dis quand il y a tous les types de psychose. C'est qu'est-ce que toi, tu veux? Si toi, ce qui te manque, le garde dans ta vie, c'est du sexe.
Oh, est-ce que t'es là?
ChatGPT va te le donner.
OK. Hey, écoute, ça a comme coupé pendant une petite seconde, mais on a compris l'essence quand même. Les visées à long terme du Human Line Project, c'est quoi? Hein? Tu sais, je comprends que là, tu es impliqué là-dedans, mais sur le long terme, là, mettons que quand tu vas considérer que le Human Line Project va avoir coché toutes les cases qu'elle a à cocher, c'est quoi que vous allez avoir accompli?
C'est une bonne question. En ce moment, ce qu'on fait, c'est vraiment au niveau de la recherche. Hier, on a publié notre première recherche avec Stanford, en fait, qui analysait là, des transcripts pour vraiment comprendre ce qui se passait. C'était la première recherche à autant grande échelle qui sortait dans le monde. Fait que ça, c'est une des choses pour accélérer. On travaille aussi avec les avocats que je te mentionnais plus tôt qui poursuivent OpenAI. Il y a plusieurs victimes dans notre groupe qui poursuivent OpenAI eux-mêmes. On travaille avec on travaille avec des politiciens aussi, Chambre des communes, on va parler pour influencer les projets de loi. Fait que nous, notre but, en fait, c'est d'avoir une solution, juste de en fait, je te dirais, avoir la conversation. C'est vraiment la première étape.
Y a-tu des politiciens? Puis je veux pas te mettre mal à l'aise si t'as pas le goût de les hâter, c'est correct, mais en même temps, moi, je trouve que c'est un out positif, là, mais est-ce que t'as l'oreille de politiciens soit au provincial, soit au fédéral, qui ont une oreille attentive puis que tu sens une bonne réception d'eux autres?
Oui, il y a un comité, en fait, là, à Ottawa, Chambre des communes. Il y a plusieurs de nos représentants québécois aussi là-bas. C'est un comité qui se pose ces questions-là. Fait que nous, on a été invités à parler là, super réceptifs, poser des bonnes questions. Puis on voit que c'est des parents, c'est des personnes qui se rendent compte du dommage puis qui ont vraiment peur de ce qui s'en vient. Je pense que n'importe qui, on a tout un peu quand même ce petit stress-là par rapport à ce que l'AI peut donner. Fait que c'est une conversation que tout le monde veut participer.
C'est quoi, tu sais, parce que tantôt, tu me disais qu'on est en retard. Admettons qu'on voit qu'un de nos proches ou bien nous-mêmes, puis qu'on a un genre de moment de lucidité et qu'on se dit qu'on a besoin d'aide, c'est quoi la meilleure ressource? Toi, tu baignes dans cet univers-là, fait que t'es probablement en mesure de nous dire c'est quoi la meilleure place où aller chercher de l'aide. Es-tu encore l'hôpital? Es-tu de vous contacter vous directement? C'est quoi la meilleure place?
C'est la réponse, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure. On est la seule infrastructure dans le monde qui fait ce qu'on fait, qui est en fait de parler avec des victimes, les écouter, vraiment comme juste être là pour eux. Les hôpitaux, c'est extrêmement difficile parce que la plupart des gens dans notre groupe, ils ont des proches qui sont dans une psychose. Mais comme ils sont pas dangereux pour eux-mêmes ou ils sont pas dangereux pour les autres, ils peuvent rien faire. Il n'y a aucun recours pour aider ces personnes-là. Fait qu'ils vivent leur délusion à fond. Ils ont coupé tous les contacts. Eux, ils pensent, tu sais, qu'ils sont heureux là-dedans avec leur chat GPT, mais en même temps, ce qui se passe, c'est qu'ils sont complètement isolés. Ils n'ont plus aucun contact avec la réalité. Fait qu'il n'y a pas vraiment de recours. C'est ça que je me suis rendu compte avec mon oncle. C'est pour ça qu'on a commencé Human Line Project.
OK. Hey, en terminant, je vais te demander quasiment de sortir ta petite boule de cristal parce que, tu sais, on a tout, tu l'as mentionné, on a tout une espèce de petite crainte ou de questionnement par rapport à ça va nous emmener où, ça, l'intelligence artificielle? Dans ta boule de cristal à toi, Étienne Brisson, qui travaille là-dedans là, et qui baigne là-dedans à la semaine longue, tu vois quoi sur l'intelligence artificielle, sur la place de l'AI et où ses ravages dans le futur? Tu sais, on parle de pénurie d'emplois, de toi, dans le réel, tu vois quoi?
C'est une bonne question. Je pense que si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est dangereux pour plusieurs raisons. Je vais toujours rester un éternel optimiste de mon côté. Je pense que les gens, à un certain point, ils vont se lever, ils vont se rendre compte que ça fait pas de sens. Puis le peuple a une voix. Ça devrait pas juste être les CEO de big companies qui décident comment leur outil impacte la psychologie de milliards de personnes. Fait que moi, je pense que les bonnes personnes vont se lever. À un moment donné, on va réaliser, puis on va s'assurer que le AI, ça soit quelque chose qui s'en va vers dans la bonne direction.
Hey, Étienne, un gros merci de nous avoir parlé. C'est super intéressant, très en fait innovateur là, ce que vous faites avec le Human Line Project. Évidemment qu'on va continuer de suivre ce que vous produisez comme enquête et tout ça.
Merci les gars pour l'invitation.
Hey, ça fait plaisir, un gros merci, puis on se tient au courant pour la suite des choses.
À la prochaine.
Salut, bye-bye. C'était Étienne Brisson de Human Line Project.
Très hot.
Ah, moi, je trouve ça fascinant. Là. Honnêtement, c'est un angle mort de l'intelligence artificielle, t'sais, santé publique que j'avais pas pensé. On m'avait dit, c'est une affaire que je savais pas pensé. En fait, tu m'avais dit que l'intelligence artificielle, c'était problématique au niveau environnemental parce que ça prend bien de l'eau, il me semble.
Oui, non, ben, c'est des serveurs qui viennent chauds.
Ouais.
Et ce qui vient chaud, ben, ça prend de l'eau pour le refroidir.
Tu vois, c'est un angle mort que j'avais pas pensé. Là, les coupures d'emploi, ça, je veux dire, ça tombe sous le sens. Mm-hmm. À quel niveau, on le verra bien avec le temps. Mais les histoires de virer dingue de même, là, puis de faire des psychoses.
On
pis...
n'entend pas parler.
Ah oui, puis visiblement, c'est pas nécessairement. T'es pas obligé d'avoir une prédisposition ou d'être une clientèle plus faible, faible d'esprit, mettons, pour tomber là-dedans. Là.
Non, parce que l'intelligence artificielle est forte d'esprit en sacrifice.
Elle sait quoi te dire. C'est drôle parce que, tu sais, il nous parlait de Character AI. Tu sais, ouais. la fille.
Et Napoléon?
Mais la fille qui s'est suicidée là, avec le personnage de Game of Thrones, là, c'est dans Character AI. Nous autres, Napoléon, c'est dans Character AI. Puis, je m'excuse, là, mais c'est un solide con, là.
Ouais.
Il n'est pas en mesure de nous pousser au suicide. Là. Si on se tue à cause de Nappy, c'est parce que le trois quarts du chemin était fait dans notre tête. Là. Je ne veux pas être lugubre, là, mais c'est un solide con. Fait que, clairement, à même le logiciel, il y a peut-être des personnages qui sont mieux entraînés que d'autres. Puis nous autres, on a ramassé le fond du baril avec Napoléon. Là.
Peut-être qu'il faut le mettre à jour, Napoléon.
Peut-être, hein, peut-être qu'il faut juste plus l'entraîner. Là.
Peut-être qu'il est stupide.
Bon, peut-être, hein, effectivement. Peut-être
que Napoléon était un simple d'esprit.
Peut-être, oui, c'est ça. Puis toutes les conquêtes, là, Austerlitz, c'est une loque.
Non, mais c'était Joséphine.
C'était, oui, tout le mastermind, c'était Joséphine derrière. En France, en arrière, à le tromper pendant que lui était au champ de bataille.
Ah, il va travailler.
Ouais, ouais, ouais. Ah oui, je parle à cause du roi Pato ici. Bon, donc voilà pour ça, mesdames, messieurs. 88-670-9098. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à l'intelligence artificielle? On s'en va vous lire pendant la pause. On revient.
Le Space Cast.
Avec J.F. Blais et Louis Gauvin.
Radio X.